celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et la fin du verset, je crois que c'est quelque chose qui nous intéresse tous. Et Dieu demeure en lui. C'est peut-être un rappel essentiel de ces fondamentaux que peut-être parfois, c'est vrai, la routine aidant, eh bien, nous en sommes peut-être un petit peu éloignés. Alors c'est peut-être un thème qui peut servir à la fois à quelqu'un qui découvre l'Évangile ou qui est dans ses débuts pour comprendre la nécessité de vraiment connaître et d'expérimenter, de croire dans l'amour de Christ, mais peut-être aussi pour celles et ceux qui ont fait ce pas de foi dans leur vie, eh bien de continuer leur chemin, toujours dans ce cadre précis de la parole de Dieu, de demeurer dans l'amour. C'est pas quelque chose de ponctuel, de quelque chose qui se passe une fois dans notre vie ou de manière épisodique, mais quelque chose de constant. Il y a une constance parce que le défi est grand pour que Dieu aussi demeure en nous. C'est fondamental et de savoir et d'expérimenter, c'est vrai pour notre foi, qu'il y a quelque chose qui est fondé dans l'amour de Dieu, mais y demeurer dans notre vie, c'est peut-être parfois quelque chose de plus compliqué. Alors pour aller un petit peu plus loin dans ce partage, j'ai inventé une petite histoire. C'est une histoire imaginaire, mais c'est juste un petit dialogue. C'est un groupe de jeunes filles qu'on imagine, qui se retrouvent pour une soirée. Ce sont des amis qui ont l'habitude de se retrouver pour faire un petit peu la fête, discuter, enfin trouver du plaisir ensemble. Et elles sont en train de discuter, dans ce temps-là particulier, d'une de leurs amies qu'elles ne voient plus depuis quelque temps. Eh bien, pour la raison suivante, c'est que cette autre jeune fille a connu un changement assez considérable dans sa vie. Elle est devenue maman. Et voilà qu'au cours de cette discussion, il y a une jeune fille qui fait cette remarque « À moi, je ne serai jamais maman. » Vous vous rendez compte, toutes ces privations, tout ce que nous pouvons vivre ensemble ce soir, ne plus pouvoir sortir avec les amis, ne plus pouvoir disposer de son temps comme on l'entend, être obligé parfois de prendre sur notre temps à soi dans le sommeil pour se lever, pour s'occuper du bébé, ne plus avoir parfois même une minute à soi pour avoir tout son temps pour lui. Ce bébé qui est venu bouleverser la vie, avoir le sommeil coupé parfois plusieurs fois dans une nuit, sans parler bien sûr des douleurs de l'enfantement. À moi, il est hors de question que je ne vienne maman, c'est pour moi synonyme de cauchemar. Alors, voilà une petite illustration, une petite histoire un peu imaginaire. Et on peut dire que d'une certaine manière, cette jeune fille, elle a vu juste. Mais elle a peut-être négligé un détail dans cette histoire et dans sa façon d'analyser cette attitude. Un détail qui fait peut-être toute la différence. C'est que cette jeune fille, en devenant maman, eh bien, a connu une transformation radicale, complète. On peut dire que dans le cœur de cette jeune fille qui est devenue une jeune maman, il se crée une relation d'amour si intense avec son enfant que tout ce qui peut paraître raisonnablement, entre guillemets, comme une privation pour cette jeune fille qui voit cela de loin, eh bien, pour cette jeune maman, tout cela est relayé au second plan. Le bonheur immense qui envahit une maman de pouvoir prendre son enfant dans ses bras rend pratiquement insipide toutes les joies qui auparavant la nourrissaient aussi. Cette relation d'amour d'une mère envers son enfant est quelque chose de très fort parce que même le Seigneur lui-même va prendre pour exemple cet amour-là pour montrer qu'il est tellement fort qu'il est juste après l'amour que lui manifeste pour nous. Il est écrit dans la parole de Dieu, c'est l'Éternel qui dit ceci à son peuple, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit ? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a conçu ? Et même si les mères oubliaient leurs enfants, « Je ne t'oublierai pas. » Extraordinaire. Ésaïe 49, verset 15. Cela nous ramène à ce que nous partageait dimanche dernier lors de la présentation de la Sainte-Seine, notre frère Michael, sur cet amour. On ne peut pas être aimé d'un amour plus grand que l'amour de l'Éternel. Et chacun d'entre nous, nous en sommes les bénéficiaires. Et je reviens sur cet amour de la mère avec l'enfant. C'est un amour très particulier, extrêmement fort, puisque Dieu se met juste au-dessus d'un tel amour. Vous savez, de la même manière, autour de nous, de la même manière que cette jeune fille a une vision un petit peu particulière et certainement très erronée de la situation, de la même manière, des multitudes autour de nous se trompent en présentant la religion. Religion, notre pasteur M. Gau nous disait dimanche, c'est la relation de Dieu avec l'homme. On présente la religion souvent comme une privation du bonheur. Et nous verrons au fur et à mesure de notre partage que la privation, elle n'est pas du côté que l'on pense parfois. Un chrétien authentique, connaît lui aussi une transformation radicale. Et nous devons encore rappeler ce passage de la nouvelle naissance, tous les fruits dans sa vie. Et je crois que nous avons raison régulièrement et nous devons toujours rester pétris avec cette pensée que la vie avec Christ n'a pas de sens sans ce passage de la nouvelle naissance. Une transformation radicale et complète comme cette jeune fille qui est devenue une maman, une transformation. Et le chrétien, à partir de ce moment-là, lorsqu'il est né de nouveau, il entretient une relation d'amour avec son Dieu. Ce qui peut-être autrefois faisait ses joies, ce qui peut-être était ses seuls attraits, c'est peut-être la seule représentation du bonheur qu'il pouvait avoir dans les joies et les plaisirs de ce monde, ce qui faisait ses joies auparavant, n'ont plus d'attrait pour lui face à ce bonheur incomparable de son union avec son Dieu. Mais quel chrétien, lequel d'entre vous, mes frères et sœurs, et je me mets avec vous, comme cette maman, voudrait brader sa place pour des joies de la terre sans commune mesure avec les joies réelles de la vie en Dieu? Et Jésus l'a bien dit à cette femme samaritaine en réponse à sa question. La femme samaritaine interroge le Seigneur Jésus en disant ceci: « Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit: « Quiconque boit de cette eau, il aura encore soif. » Et nous l'avons expérimenté, nous. Cette eau la porte désaltère d'une certaine manière, mais toujours, toujours cette soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Dans Jean chapitre 4 et au verset 12. Non, la religion, contrairement à l'impression que le monde extérieur a, mais malheureusement que parfois on a même à l'intérieur de l'Église, non, la relation d'amour avec Dieu n'est pas la fin d'une liberté, mais bien au contraire, le début d'une vie nouvelle dans la foi qui trouve son fondement dans l'amour de Christ, dans l'amour de Dieu. Et je voudrais relire un texte que nous lisons souvent dans Éphésiens au chapitre 3, au verset 14. L'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 3. Éphésiens 3, verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Verset 17. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Dans le chapitre 2, on voit cela au verset 19, l'apôtre Paul disait ceci, « Ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers, vous n'êtes plus des gens du dehors. » L'apôtre Paul a rappelé aux croyants ce qu'ils étaient auparavant et ce qu'ils sont devenus, cohéritiers des enfants de Dieu. Et c'est à cause de cela, à cause de ce qu'il vient de leur dire, à cause de ce rappel, qu'il est là pour prier, pour intercéder, afin que la foi qui a certainement bien commencé dans leur vie, cette foi qui a trouvé ce fondement dans l'amour de Christ, amour de Christ pleinement manifesté à la croix du calvaire, pour que ce fondement soit quelque chose, non pas comme une expérience d'un temps dans leur vie, mais que ce soit la vie de Christ constante dans leur cœur, enracinée et fondée dans l'amour de Christ. C'est un fondamental pour que la vie de Christ s'épanouisse, cette vie de grâce, qu'elle continue et qu'elle s'épanouisse dans chacun d'eux. Cela est rendu possible. L'apôtre Paul l'explique bien. Cela est rendu possible si les croyants ne s'écartent pas de l'amour de Christ enraciné et fondé dans l'amour. Et le titre de notre message pourrait être celui-ci ce soir, être enraciné dans l'amour de Dieu. Il y a pratiquement une évocation un peu botanique dans cette formulation de l'apôtre Paul. Il y a comme ces racines, vous savez, un arbre à la base de son tronc. C'est vrai que c'est peut-être la partie la moins visible, mais il y a en tout cas ces racines qui sont là, qui vont dans le sol et qui ont finalement deux utilités particulières. C'est que elles permettent la stabilité comme un fondement enraciné, fondé, mais aussi elles permettent à l'arbre de puiser dans le sol sa subsistance, sa nourriture au travers de l'eau et des sels minéraux. Par les racines, l'arbre reçoit tout ce dont il a besoin, cette stabilité, ce fondement et aussi sa nourriture. Et je voudrais peut-être garder cette image un petit peu de ces racines pour que nous puissions partager deux points particuliers. Le premier point sera celui-ci, c'est que l'amour de Christ, cet amour de Dieu manifesté et que nous vivons, nous, en relation avec Dieu, cet amour, c'est le fondement de la vie chrétienne. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que nous puissions nous rappeler encore ce soir. Et le deuxième point, c'est que l'amour, c'est aussi la subsistance de notre vie chrétienne. Alors, ce premier point, oui, l'amour, c'est le fondement de notre vie chrétienne, étant enraciné et fondé dans l'amour. Il y a quelque chose que nous rappelons encore ce soir et qui est fondamental dans l'Évangile, c'est qu'il y a un lien indissociable entre notre foi en Christ et notre amour pour lui. On ne peut pas construire une vie avec Dieu sans amour. C'est pas possible. L'apôtre Paul ira jusqu'à dire ceci, « Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » On ne peut pas plus clair. 1 Corinthiens 13, verset 2. Et on peut dire que la foi seule, elle nous est d'aucun secours. Et on va lire deux versets ensemble dans 1 Jean, on revient dans 1 Jean, au chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, l'amour de Christ, c'est vraiment le fondement de notre vie chrétienne et foi et amour sont complètement indissociables dans notre vie. Nous savons, 1 Jean 3 verset 14, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Et si vous regardez au chapitre 4 et au verset 20, 1 Jean 4, verset 20, il est dit ceci, si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alléluia. La foi seule ne nous aide qu'un secours. Nous ne pouvons pas construire une vie avec Dieu sans amour. Le fondement de la vie chrétienne, et c'est cette image de ses racines, vous savez, de cette stabilité de l'arbre. Vous savez, parfois au début, on commence au même petit terreau, tout ça, etc., au même petit tuteur, voilà, pour que... Eh bien, le fondement, c'est l'amour de Christ dans notre vie. D'ailleurs, Jésus a dit ceci, on va le lire ensemble aussi, dans Matthieu 7, verset 21. Matthieu 7, verset 21. Notre frère Michael, en introduction, au moment de prière, rappelait cette importance pour nous d'être conformes à la volonté de Dieu dans ce que nous demandons, dans ce que nous faisons, nos agissements. Et il est dit ceci, c'est le Seigneur Jésus qui rappelle ces vérités. Matthieu 7, verset 21. « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Eh bien, la volonté du Père, on la trouve un petit peu plus loin, au chapitre 22, Matthieu chapitre 22, et nous lirons à partir du verset 34. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens, se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. » Alors c'est vrai que parfois nous le voyons, malheureusement il y a des gens qui s'approchent de Dieu avec un certain intérêt, certains ont connu et ont fait des expériences, certains voilà, ont des besoins particuliers dans leur vie, et nous voyons parfois même cette union parmi les humains, ce qu'on appelle parfois, vous savez, les mariages blancs, les mariages de complaisance, voilà, chercher un intérêt dans cette union particulière, mais quand l'intérêt l'emporte sur l'amour, cela n'a plus rien à voir. Et il n'est pas étonnant que, malheureusement, parmi nous, certains, eh bien, n'étant pas enracinés dans l'amour de Christ, étant peut-être dans une sorte d'intérêt personnel, voilà, de conflit d'intérêt dans son cœur, il y a un fondamental dans la vie chrétienne, c'est d'être fondé sur l'amour de Christ, une vie chrétienne enracinée et fondée sur l'amour de Christ. Vous savez, cet exemple de cet arbre, eh bien, c'est un petit peu comme la nécessité pour nous d'être dans ce terreau, comme un terreau, l'amour de Christ, et de puiser et de stabiliser dans notre vie. Nous en avons tellement besoin. Et c'est une stabilité qui est finalement à toute épreuve pour nous. Et cette épreuve, vous savez, l'image de l'arbre qu'on prend souvent, où finalement, chaque épreuve, si nous restons vraiment ancrés, fondés dans le Seigneur, on sait que les racines, de plus en plus, elles puisent, elles cherchent cette stabilité encore plus forte. Et c'est une image extraordinaire, parce que nous savons que l'épreuve, malheureusement, elle peut aussi faire tomber l'arbre, mais elle peut avoir aussi cette... Si nous puisons vraiment, elle peut enrichir ses racines de manière à ce que plus tard, quand le vent vient, que la tempête et que l'épreuve est là, nous sommes encore plus fondés et enracinés dans l'amour de Christ. En définitive, au fur et à mesure, plus rien ne peut ébranler de tels fondements. L'apôtre Paul dit que l'amour ne périt jamais dans 1 Corinthiens 13. Il dit ceci, « Trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Les choses qui demeurent, c'est l'amour. Et l'apôtre Paul ira jusqu'à dire ceci, « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » L'amour de Christ, c'est le fondement de notre vie chrétienne. On construit sur quelque chose d'inébranlable, que rien, personne ne pourra venir nous arracher. Ça, c'est des bonnes fondations pour la vie chrétienne. Alors, être enraciné de l'amour de Dieu, c'est bien sûr cette image donc de ces racines qui nous offrent cette stabilité, cette fondation dans notre vie. Mais c'est aussi l'image de cette racine, de ces racines, c'est aussi pour l'arbre de chercher cette nourriture, vous savez, de puiser cette eau, ces sels minéraux, tout cela dont il a besoin. C'est pour nous aussi, et c'est pour cela que c'est non seulement fondamental, mais vital pour notre vie chrétienne. C'est aussi, et ça sera notre deuxième point, l'amour, c'est la subsistance de la vie chrétienne. Et je crois véritablement qu'il est question ici, c'est une question de survie. Et tout comme cet arbre puise au travers de ses racines, eh bien l'eau, tous ces sels minéraux nécessaires au bon développement, le chrétien aussi puise dans ce bon terreau de l'amour de Christ tout ce dont il a besoin afin de s'épanouir. Tout cela est prévu dans le plan de Dieu. Notre frère, au travers de ses cantiques, nous a rappelé l'importance de la vie autour du Saint-Esprit. Et je crois que, et nous allons y venir petit à petit, nous avons besoin de considérer que le Seigneur a prévu tout ce qu'il fallait pour nous. C'est sûr qu'il peut être suffisant pour toutes ces choses que nous partageons aujourd'hui. Elles peuvent peut-être sembler, et c'est certain, à vue humaine, quelque chose de complètement infaisable et invivable. Mais nous devons réaliser, comprendre qu'à la croix du calvaire, tu as tout accompli. Et que nous recevons au travers de ce fleuve de grâce tout ce dont nous avons besoin, l'action du Saint-Esprit dans nos vies, pour que ces réalités soient quelque chose qui puisse être vécu dans notre vie. Et comme je le disais tout à l'heure, quelque chose qui soit pas épisodique, mais quelque chose de permanent. Ces racines, c'est comme ce lien, vous savez, il y a cette autre image extraordinaire du cep et du sarment que nous laisse le Seigneur Jésus, afin que cette vie coule dans chacune de nos vies. Et je crois que c'est le désir de nos cœurs, lorsque nous avons prié tout à l'heure, je crois qu'il y a vraiment ce désir pour nous de voir la vie de Christ pleinement se manifester dans nos vies, au milieu de nous. Je disais tout à l'heure, c'est vrai, ces racines, c'est un petit peu la partie cachée. Et c'est peut-être aussi pour nous, cette vie que nous avons, voilà, dans cette intimité personnelle avec Dieu. On voit, vous savez, des fois quand on est l'arbre, on regarde, il y a les branches, les fruits, tout ça, etc. Et parfois, peut-être, voilà, on ne pense pas à toutes ces racines. On y pense plutôt parfois, des fois, quand on fait des mauvais aménagements de terrain, on voit qu'on a fragilisé le sol quelque part et que, voilà. Mais c'est aussi cette question vitale pour nous, la subsistance, l'amour, cette subsistance de la vie chrétienne. Et nous nous rappelons ce verset où l'apôtre Paul aux Romains dit ceci, « L'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu, est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Voilà un verset essentiel dans notre vie, de tous les jours, dans notre marche avec le Seigneur et sur ce thème particulier, de dépendre de l'action du Saint-Esprit, afin que l'amour de Dieu, cet amour si grand et si puissant, tel qu'il nous l'a montré, tel qu'il l'a témoigné lui-même, puisse se répandre dans nos vies. On va lire un verset ensemble dans Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22, nous pouvons tous le citer quasiment par cœur, mais je vous invite à le relire pour ceux qui peut-être n'ont pas l'habitude de ces textes, et c'est intéressant parfois de les relire tranquillement. C'est le Saint-Esprit qui ne cesse de déverser l'amour de Dieu dans nos cœurs, ces racines qui sont là et cette vie de Christ qui jaillit en nous. Et il est dit ceci, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Le fruit par excellence de l'esprit, bien c'est l'amour. Il y a l'amour, hein, vous savez, qui est cité comme en premier, qui englobe. C'est un seul fruit. Quand on est inondé, immergé de l'amour de Christ, il y a cette joie, cette paix, toute cette patience, cette bonté, cette bienveillance à l'égard des autres, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Tout cela est englobé finalement. Et c'est ce que nous voulons. Je sais qu'il y a ce désir dans nos cœurs. Et parfois, il y a des frustrations, je le vois dans certains entretiens, on sent qu'il y a un décalage parfois, hein, dans notre vie de tous les jours, dans ce que, voilà, un peu comme un combat, et on aurait presque envie de je dis pas de se forcer, mais en tout cas d'essayer de rentrer dans cette joie, dans cette paix. Vous savez, des fois il y a vraiment, et cette volonté, elle est saine dans notre cœur. Mais c'est l'amour de Christ dans notre cœur. C'est là que nous devons travailler. La mauvaise compréhension de cette jeune fille, c'est de pas avoir compris que, eh bien, cette jeune fille qui est devenue maman, eh bien, il est né une relation d'amour. Et à côté de tout cela, il y a rien. Vous savez, la religion était souvent présentée dans tous ses côtés. Vous savez, les fardeaux, toutes ces vicissitudes, tout ce que nous devons faire, etc. Mais c'est un peu aussi la façon dont la jeune fille avait cette vision d'une vie d'une maman, avec un sacerdoce perpétuel, un boulet qu'on traîne toujours au pied. Et c'est vrai qu'il faut être honnête, parfois, certaines exigences de la vie chrétienne, dans le domaine de la sanctification, de l'obéissance au Seigneur, ont été parfois, sinon présentées, en tout cas perçues dans notre cœur comme cela. Et c'est pour ça que j'ai pris cette histoire tout à l'heure, parce qu'elle me semblait représentative aussi de l'image que nous avons parfois de la mort à soi-même dans la vie chrétienne, de porter sa croix, tout ce côté un petit peu qui donne quelque chose, met en avant en fait le domaine de la privation. Mais il n'en est rien. C'est pas la privation, au contraire, c'est le début d'une liberté. C'est en fait en ne jouissant pas de cette vie en Christ que nous nous privons des bénédictions qui s'y attachent. Et une jeune fille qui dit « je veux pas être maman », que nous le voulions ou non, c'est vrai, elle ne veut pas se priver peut-être de certaines choses, mais surtout elle se prive des bénédictions pour celles et ceux qui ont eu des enfants. Quelle bénédiction d'être un papa ou une maman. Le fruit par excellence de l'esprit dans nos vies doit se manifester de telle manière. Et en ayant ses racines dans l'amour de Christ, je crois que c'est quelque chose qui doit naturellement être vécu dans notre vie, une joie paisible, toute cette paix, cette patience, tous ceux qui vivent autour de nous. Et en priant tout à l'heure, j'avais vraiment ce fardeau où les uns et les autres, et je le sentais vraiment dans plusieurs prières, où nous voulons être des témoins. C'est pas facile aujourd'hui d'être témoin de Christ autour de nous, dans nos familles ou dans le milieu de travail. On voit un petit peu tout, même ces dérèglements dans la société, vous savez, dans ces échanges que l'on peut avoir. On parlait tout à l'heure de ces rébellions, etc. Et comment, par l'action du Saint-Esprit dans nos vies, l'amour de Christ et ce fruit de l'Esprit qui agit, comment nous pouvons finalement, même sans parole parfois, être d'authentiques témoins de la vie de Christ dans nos vies. On a mal compris parfois cette notion de commandement, d'obéissance, de renoncement à soi-même. On a mal compris tout ce qu'on a présenté comme des sacrifices, car nous n'avons pas toujours saisi la véritable motivation de ces choses. C'est tout simplement l'amour de Christ, ce terreau essentiel à notre vie que nous voulons pleinement épanouie en Jésus-Christ. Un homme a dit ceci: celui qui n'a pas encore appris à aimer Dieu et à le chercher par-dessus toute chose, est digne de pitié. Il ne fait que se priver lui-même des bénédictions qui attendent ceux qui aiment Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur pensée. La privation, elle est là, effectivement, pour celles et ceux qui n'ont pas réussi ou compris ou sont pas rentrer dans cette recherche personnelle, dans cette intimité avec le Seigneur. Et finalement, ils ne font que se priver de ces bénédictions extraordinaires de la vie de Christ qui se manifeste dans nos vies. Quelle joie de ne plus vivre pour nous-mêmes, mais pour le Seigneur. Franchement, qui a envie de revenir en arrière? Qui voudrait vivre? Quelle joie de ne plus vivre pour nous-mêmes, mais pour le Seigneur. Et ça, c'est possible par deux phénomènes très, très concrets et particuliers de notre vie. D'un côté, la grâce de Dieu, je le disais tout à l'heure, on ne peut pas y arriver de nous-mêmes. C'est la grâce de Dieu et c'est aussi son amour. Regardez dans Tite au chapitre 2. Tite chapitre 2 et nous lisons verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. La grâce de Dieu. Et maintenant, lisons cet autre verset dans 2 Corinthiens 5, verset 14. 2 Corinthiens 5, verset 14. D'un côté, la grâce de Dieu qui nous enseigne à renoncer à toutes ces convoitises mondaines. Et en même temps, 2 Corinthiens 5, verset 14, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. C'est cette réalité que l'apôtre Paul veut que nous vivions les uns et les autres, tous les jours, enracinés, fondés sur l'amour, dans l'amour de Christ. Quelle joie de ne plus vivre pour nous-mêmes, comme une vie un petit peu, vous savez, égoïste, égocentrique, centrée sur nous-mêmes, sur nos propres projets, nos propres plaisirs, nos propres suffisances. Quelle joie de ne plus vivre pour nous-mêmes, mais pour vivre pour le Seigneur, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. La grâce de Dieu, sans elle. Jésus l'a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. La grâce de Dieu et l'amour de Dieu qui est là comme quelque chose qui presse notre cœur. Et vous savez, quand on regarde la vie de l'apôtre Paul, comment il a été infatigable dans tous ses voyages, toutes ses exhortations, tout ce qu'il a pu faire. On peut s'interroger parfois, voilà, tout ce qui a été sa vie. On comprend dans ce verset que cet homme a été poussé par l'amour de Christ dans sa vie. Et tout ce qu'il a pu faire, il a pu le faire d'une manière totalement désintéressée, parce que l'amour de Christ était vraiment cette racine et ses fondements dans sa vie. L'amour de Christ nous presse. C'est le philosophe chrétien saint Augustin du IVe siècle qui a déclaré ceci. Ce court précepte t'est donné une fois pour toutes. Aime et fais ce que tu veux. Si tu te tais, tais-toi par amour. Si tu parles, parle par amour. Si tu corriges, corrige par amour. Si tu pardonnes, pardonne par amour. Possède au fond du cœur la racine de l'amour. De cette racine, rien ne peut sortir de mauvais. La meilleure des racines, c'est l'amour. On construit sur quelque chose d'excellent pour nous tous les jours. Alors quand il est dit « aime et fais ce que tu veux », ça ne veut pas dire qu'au nom de l'amour, on peut faire ou tolérer n'importe quoi, comme malheureusement cela s'est vu, a été enseigné, a été dit et vécu malheureusement par beaucoup au nom de l'amour. Qu'est-ce que cela signifie en définitive? Cela signifie qu'une volonté qui est fondée sur l'amour de Dieu, en fait, elle n'aurait pas besoin de loi. Si cette volonté que nous avons dans notre vie est entièrement motivé par l'amour, et je parle de l'amour véritable, l'amour de Dieu. En fait, elle est une loi pour elle-même. Elle ne s'écartera jamais de Dieu et donc de faire constamment le bien que Dieu veut que nous fassions. Et pour vous en convaincre, lisons ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 13. Encore plus fort que les paroles de saint Augustin, 1 Corinthiens 13, mais il y a une large similitude avec ce que nous allons lire, 1 Corinthiens chapitre 13 et au verset 4. J'ai déjà fait référence à quelques versets de ce chapitre tout à l'heure, mais lisons verset 4. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Quand je vous disais qu'il peut être une loi à lui seul, l'amour pleinement vécu, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Verset 7, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, et il supporte tout. Amen. L'amour comme la subsistance de notre vie chrétienne. Souvent, nous nous trouvons beaucoup d'excuses pour nous-mêmes et beaucoup plus difficilement pour les autres. Je pense que ça a un peu le rapport aussi avec cette fameuse paille et cette poutre. Et un homme a écrit ces vers dans un poème, il dit ceci, « Ne juge pas. Ce qui se passe dans son cerveau et dans son cœur t'est invisible. Ce qui, à tes yeux voilés, semble être un défaut, peut n'être qu'une cicatrice, une marque visible ramenée d'un rude champ de bataille, éloigné, où tu aurais peut-être succombé et abandonné. » Et c'est vrai que des fois, voilà, on est beaucoup plus conciliant dans nos vies personnelles, et beaucoup plus difficile pour les autres. Et prions ensemble que le Seigneur déverse en nous sa compassion et son amour, que nous puissions être vraiment enracinés, fondés dans cet amour de Christ, afin que nous puissions voir, si Dieu le permet, les autres comme lui il les voit. Donne-nous de l'amour pour les âmes, Seigneur. C'est vrai que vu de l'extérieur, la vie chrétienne peut ressembler à un fardeau perpétuel. Vu de l'extérieur, vous savez, cette jeune fille, elle avait pas tort sur tous les tableaux. Et c'est vrai que une vie de maman, c'est laborieux. Hein, c'est une grande école, la parentalité, avec ses joies, mais aussi ses difficultés et ses peines. Mais c'est tout le contraire. C'est tout le contraire, car l'amour de Dieu, l'amour de Christ, nous donne une telle force intérieure. L'Esprit de Dieu, comme nous l'avons lu tout à l'heure, le fruit de l'Esprit tel qu'il se développe dans notre cœur, que nous sommes non seulement capables de nous aimer nous-mêmes, comme l'a rappelé notre pasteur, nous pouvons nous aimer nous-mêmes, mais nous sommes capables aussi d'aimer notre entourage, et nous sommes même rendus capables, par la grâce de Dieu, d'aimer nos ennemis. C'est dire la puissance que l'amour de Christ veut manifester dans notre vie. Oui, c'est au-delà de nos forces. Alors prions le Seigneur de nous y aider, comme l'apôtre Paul le fait dans ce verset, que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 12. Je voudrais juste conclure ce thème sur être enraciné dans l'amour de Dieu par cette dernière pensée. Vous savez, le Seigneur a été obligé un jour de faire un reproche à une église. On va le lire ensemble dans Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2 à cette église d'Éphèse. Apocalypse 2 verset 1er, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, « Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. je connais tes œuvres. Je connais ton travail, je connais ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. On peut dire amen, c'est la parole de Dieu. Il y a bien une notion d'œuvre, de travail, une foi qui semble vivante dans le cœur de cette Église, mais c'est un travail qui n'est pas le fruit de l'amour de Christ. Et à l'inverse, je dirais, on peut lire ce dernier verset dans 1 Thessaloniciens chapitre 1er. 1 Thessaloniciens chapitre 1er. À l'inverse, l'apôtre Paul va louer véritablement cette église, l'église de Thessalonique, pour un travail qui, pour ce compte-là, pardon, est le fruit de l'amour. On va juste lire le verset 2, 1, premier épître, pardon, de Paul aux Thessaloniciens. Verset 2, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre Père. Amen. Le travail de votre amour. Et il est question ici pour nous, bien sûr, comme dit l'apôtre Jean, eh bien de ne pas aimer seulement en parole, avec la langue, mais en action et avec vérité. Et c'est important pour nous aussi de réaliser, voilà, dans ce que nous faisons, dans notre vie de tous les jours avec le Seigneur, de peut-être reconsidérer nos voies. Parfois, c'est important de pouvoir le faire et de savoir si ce que nous faisons, ce que nous vivons et surtout ce qui est notre communion avec Dieu, si tout cela trouve sa racine dans l'amour de Christ. On peut faire beaucoup de choses. On peut imiter plein de personnes. Notre pasteur nous rappelait dimanche qu'il peut y avoir même beaucoup de simulacres dans notre vie chrétienne. Mais ce dont nous partageons ce soir, ce que nous lisons au travers de la parole de Dieu, est quelque chose qui est bien au-delà de tout ce qui pourrait être superficiel. De ce que nous avons besoin les uns et les autres, d'être comme enracinés constamment dans notre vie sur l'amour de Christ, afin de puiser tout ce qui est nécessaire dans, je ne sais pas, dans les services que nous avons, dans tout ce que nous pouvons faire et cheminer chaque jour, et même dans la place que nous avons dans l'Église. Et c'est pour ça que nous avons parlé de tout ce fruit de l'Esprit. Comment nous vivons la vie de Christ autour de nous, afin que nous puissions être des témoins à la gloire de son nom. Que le Seigneur nous aide à vivre cette vie enracinée, fondée dans l'amour de Christ. Prions un instant le